Pirates et libre. Pirates et libre. CKUT 90.3 FM.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences et cours privées sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les zones jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Votre invitation à participer au recensement est arrivée par la poste. Votre participation aidera à planifier des programmes et des services pour votre collectivité. Votre recensement, votre collectivité, votre avenir. Un message du gouvernement du Canada.
The 37th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. A must for safe live arts. May 17th to 23rd. Concerts, sound art installations in public spaces, experimental short films, and visual arts. For a safe event of living arts, let's meet in Victo this May. Details and tickets for the 37th FEMAV at www.femav.qc.ca. That's www.fimav.qc.ca.
C'est carité, les vibrations de la communauté. C'est carité, FM 90.3.
Bonsoir à tous, ici Ève Laurence au micro pour Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Aujourd'hui, Alex s'entretient avec l'excellente artiste montréalaise Claude Lanthrop, qui souligne la sortie de son tout nouveau single « Allô sexuel ». Esther s'est entretenue avec la commissaire Cecilia Brackmore dans le cadre de l'exposition « Résurgence, Reclaiming My Place ». Et puis moi, je vous présente un petit listing de quelques festivals annoncés cet été, avec peut-être ce que l'on pourrait voir comme un retour en force de l'événementiel, mais cette fois-ci en région, à l'extérieur de la métropole. Bonne émission!
Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle. Vous êtes toujours à l'émission Café sur les ondes de CKUT. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'excellente artiste queer montréalaise Claude Lanthrope pour souligner la sortie de son single Allo Sexuel qui a lieu aujourd'hui même. Claude Lanthrope est une artiste interdisciplinaire très prolifique qui évolue dans le milieu musical et artistique depuis près d'une décennie. On l'a connue il y a plusieurs années déjà dans son ancienne formation punk manouche, les Sophie Lanthrope. Et depuis 2007, elle s'est lancée dans une carrière solo qui fait plus dans le folk et dans l'électropop années 80, très bonbon. Parallèlement, Claude Lanthrope poursuit une carrière dans l'audiovisuel en faisant notamment des installations sonores. En début d'entrevue, je l'ai questionnée justement sur sa santé mentale en temps de pandémie ainsi que sur ses projets. Et vous allez voir, la pandémie n'a pas été une excuse pour l'arrêter, bien au contraire.
La pandémie a quand même bousculé pas mal d'affaires parce que, tu sais, tous mes projets ont été quand même mis sur la glace pendant un bout de temps. Puis là, ben, on dirait que tout s'est donné le go pour que ça se passe en même temps. Fait que là, tu sais, de ce temps-ci, je suis comme vraiment full occupée. Fait que côté échéancier de travail, ouais, c'est pas idéal. Mais en même temps, le fait que les projets aient été comme mis sur la glace, ça m'a donné la chance de faire des demandes de bourse. Fait que finalement, j'ai bien récolté les fruits de cette petite période à la maison à rédiger des demandes de bourse.
Et aussi?
J'ai continué un peu mon album. J'ai fait vraiment beaucoup d'affaires. J'ai commencé une installation sonore qui est comme une résidence de 2 ans avec le centre perte de signal. Ça va être une installation sonore dans laquelle j'utilise des bactéries puis un microscope pour faire du son. Après ça, j'ai continué à préparer mon album folk que je vais commencer à produire plus concrètement à partir de septembre. Puis j'ai aussi fini mon nouvel album électro. C'est un EP, là, il y a 6 tunes. Puis là, je suis présentement en train de le masteriser là, avec JP Villemur. Fait que ça, cet album-là a été entièrement fait pendant la pandémie.
Et ensuite, je lui ai demandé comment elle faisait pour rester autant prolifique dans sa création artistique. Et voici ce qu'elle avait à dire.
Je pense que dégager du temps, tu sais, c'est important, là. Moi, c'est pour ça que, tu sais, toute l'année passée, tu sais, déjà, j'avais une job 3 jours semaine avec 4 mois de congé l'été. Fait que, tu sais, j'ai aménagé ça pour avoir, tu sais, du temps dégagé pour la création. Puis, sinon, tu sais, je suis quand même assez rigoureuse, là. Je me fais des horaires de travail dans mon studio, dans mon atelier. Puis, tu sais, mettons, je vais passer une journée par semaine sur mon installation, deux journées par semaine sur mon album. Puis, tu sais, c'est ça, les journées que je peux au travail, là. Fait que, ouais, je pense que je suis comme quand même assez disciplinée. Le fait que je produise beaucoup aussi, je pense qu'il y a un aspect que je suis un peu botcheuse. Okay. Fait que, genre, je suis bien, bien, bien excitée quand j'ai les idées, puis quand je commence le processus de création. Puis vers la fin, quand il faut comme peaufiner puis faire la finition dans les détails, souvent, je suis plus botcheuse là, parce que je suis comme tannée puis j'ai hâte de passer au prochain projet. Fait que je pense que ça participe aussi à ma surproductivité, là.
Et donc, dans ce grand foisonnement de projets, je lui ai demandé d'où elle tirait ses inspirations. Voici ce qu'elle m'a dit.
Ça dépend pour quel projet, là, mais tu sais, mettons, mon album folk, finalement, c'est juste des tunes d'amour. Okay. Après ça, mes albums électro, tu sais, je suis comme très inspirée par l'état du monde contemporain, l'espèce de devenir machine de l'humain, tu sais, l'espèce de société comme super technologique, mais aussi vraiment déprimante. Puis l'espèce de tristesse là, post-industrielle qui découle de tout ça, ça m'inspire vraiment dans mes tunes d'électro. Sinon, pour mes installations sonores, là, c'est vraiment comme plus conceptuel. Ça va être vraiment une recherche là, au niveau de la forme puis des concepts.
Ensuite, je l'ai questionné sur ses ambitions musicales parce que, après avoir longtemps pensé qu'elle aimait rester en marge de l'industrie musicale, plusieurs indices dans son curriculum de la dernière année laissent supposer autrement. Écoutons ce qu'elle a à dire à ce sujet.
Ben, au début, quand j'ai recommencé à faire de la musique, là, vers comme 2017, parce que, tu sais, j'avais eu le band aussi, les Sophilanthropes, là, pendant 5 ans, avant ça. Mais quand j'ai recommencé à faire de la musique en 2017, c'était vraiment juste pour le fun. J'étudiais, tu sais, à l'université en électroacoustique, puis je m'enlignais plus vers le cinéma puis les arts sonores. Puis, ben, tu sais, d'album en album en album, finalement, tu sais, d'avoir, tu sais, des belles retombées, puis un, tu sais, des belles critiques, puis des encouragements. Finalement, oui, ça m'a donné quand même envie de rentrer peut-être plus dans l'industrie. Peut-être moins, je pense, avec mes projets électro, parce que l'électro, tu sais, aussi, mes projets électro, c'est comme des paroles politiques, puis la musique est un peu... Être un peu excentrique, là, dans le sens que ça passera pas dans les radios commerciales pis tout. Puis je pense pas que les labels sont pas intéressés à signer des albums comme ça au Québec. Fait que dans l'électro, tu sais, je me suis comme, au moins j'ai pu jouir de cette liberté-là de création, de faire vraiment qu'est-ce que je voulais dans la plus pure autonomie. Mais aussi, ça m'a beaucoup épuisée parce que, ben, je me ramasse à tout faire tout seul, tu sais, genre. Depuis, je faisais toute seule sans financement. Fait que, tu sais, je faisais, tu sais, c'est ça, je fais tout sur les albums, autant que je fais même la production, le mix, toute la promo. Je faisais même le graphisme pour les covers. Fait que là, ça, je suis comme vraiment tannée de faire ça. Fait que oui, tu sais, éventuellement, tu sais, avec mon projet folk, justement, j'aimerais ça peut-être, là, tu sais, pouvoir être signée pour avoir une équipe qui travaille avec moi. Puis d'avoir du financement, puis de pouvoir payer des gens, puis de pas être obligé de tout faire tout seul, tu sais. Même si tu as comme, tu sais, mes quelques followers Spotify, tu sais, je sais qu'ils m'apprécient, mais à un moment donné, j'aimerais ça avoir plus que 50 listeners.
Et elle a bien raison parce qu'à force de travailler tellement fort sur des projets, ça devient quand même la moindre des choses que d'avoir un feedback un peu plus large. Et pour terminer, je la laisse vous présenter son single Allô sexuelle qui est sorti aujourd'hui même.
Fait que allô, tu sais, c'est comme tout, dans le fond, tout qu'est-ce qui n'est pas cis hétéro, ça serait comme allô sexuel. Fait que ça me faisait vraiment rire, puis j'arrêtais pas d'imaginer une toune avec des téléphones, puis quelqu'un qui répondrait comme allô, puis là, quelqu'un qui dirait sexuel. Fait que ça faisait genre 2 ans que j'avais cette idée-là. Puis là, finalement, ben, j'ai fait la toune, c'est ça, puis. Ben là, elle sort ce soir. C'est comme un peu humoristique, avec une musique un peu new wave 80s. Puis, ben finalement, c'est con, mais on va faire un vidéoclip, mais on va le tourner dans comme un mois, là. Fait que le vidéoclip va sûrement sortir au moment que l'album va être lancé, là, plus vers la fin de l'été.
Et voilà tout le monde, c'était mon entrevue avec l'artiste montréalaise Claude Lanthrope. C'était un véritable plaisir de finalement lui parler et ce sera certainement partie remise lorsque nous serons de nouveau en studio. Je vous laisse donc ce soir sur cette chanson qui est sortie aujourd'hui même. Bonne écoute tout le monde et à la semaine prochaine.
Sexuel. sexuelle.
Nous sommes les lettres de l'alphabet, les parias de la nature. Nous sommes l'anecdote, le méfait, le désir assumé de l'impur. Nous sommes la déviance, l'imparfait, devant l'univers c'est le figure. Nous sommes la nouvelle épistémée, ou plutôt que créature.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Je suis allée visiter une exposition cette semaine au centre Lethbridge. C'est à Ville-Saint-Laurent, adjacent à la bibliothèque de Ville-Saint-Laurent. Et c'était vraiment rafraîchissant d'aller voir dans cet arrondissement l'exposition Résurgence. Commissariée par Cécilia Brackmore. Elle nous présente trois artistes femmes de la diaspora, de différentes diasporas. Donc, je laisse Cécilia nous présenter la prémisse de l'exposition, puisque c'est vraiment très intéressant comment elle nous présente. Elle rend hommage à différentes diasporas.
Merci Esther pour l'invitation. Donc,
bienvenue sur Café.
Merci. Donc moi c'est Cécilia Brackmore. Donc je suis la commissaire d'expo de Résurgence, Reclaiming My Place. Et donc Résurgence c'est une exposition qui présente le travail de trois artistes. Donc Sharon Norwood, Cedarive Peters, Cedarive et Shana Strauss. Trois artistes sont des artistes femmes appartenant à la communauté BIPOC, donc Black Indigenous People of Color. Donc, nous sommes, parce que je m'inclus dedans aussi, une personne racisée. C'est une exposition qui essaie vraiment de mettre en avant des narrations qui ne sont malheureusement pas très visibles dans le milieu des arts en général, dans la culture mainstream. Et par leur pratique polyvalente, j'essaie de montrer un petit peu nos façons de voir le monde, les techniques différentes de voir le monde et d'appréhender le monde, et aussi de montrer des techniques de travail vraiment très, comme je disais, très polyvalentes, très riches.
Oui, il y a un regard vraiment sur des techniques traditionnelles, des savoir-faire qui appartiennent à des traditions, mais avec un angle très contemporain. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on trouve de l'impression sur bois, on trouve de l'art textile qui met un éclairage sur des techniques de tissage, de couture très élaborée qui appartient à certaines traditions, à une certaine forme qui appartient à une population.
Oui.
Également, très, très intéressant, cette petite photo de famille avec, avec le perlage. Comment est née ta prémisse, ou bien est-ce que les artistes ont comment dire, est-ce que la prémisse est venue avant le choix des artistes, ou c'est le choix des artistes qui a fait découler les thématiques?
c'est marrant. En fait, je dirais que c'est plutôt avec le choix des artistes. Enfin, j'ai rencontré d'abord les artistes au fur et à mesure. Moi, étant, je suis une immigrante. Je suis née en France et je suis arrivée il y a pratiquement 10 ans au Canada, et puis je pense 8 ans maintenant à Montréal. Et au fil du temps, j'ai essayé de faire ma place dans le milieu des arts, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et au fil de mes rencontres, j'ai rencontré notamment Cedarive et Shana Strauss dans mon parcours artistique et commissarial. Et j'étais touchée par leurs pratiques plastiques et artistiques, qui sont assez proches aussi, je pense, des réflexions que j'ai. Moi-même, je suis aussi artiste en même temps que commissaire. Et la relation sur la notion d'identité, sur la recherche, on va dire, identitaire, en lien avec la famille, ça m'a beaucoup touchée. Par exemple, avec Cédarive. Donc, Cédarive est une artiste anachinabé. Donc, elle vit entre Toronto et Montréal. Et son travail, justement, on parlait de perlage, c'est pour donner un peu une idée pour les auditeurs, auditrices. C'est vraiment un travail de perlage. Donc, elle intègre les photos de famille, de ces de photos familiales. Et elle intègre avec ces photos sélectionnées du perlage. Et comme tu disais, Esther, c'est vraiment un aspect... à la fois ancestrale, donc le perlage dans une identité ancestrale, mais aussi le côté contemporain, parce qu'elle a utilisé beaucoup de couleurs vraiment chatoyantes, très fluo aussi. Généralement, dans les réflexions, les discours sur la passée autochtone, ça fait vraiment quelquefois comme l'idée que c'est quelque chose du passé. C'est souvent quelque chose qui me choque, souvent. Et quand on parle d'histoire, on parle du contact entre les Européens et les Premières Nations, et puis à un moment, on ne voit plus les Premières Nations. Et c'est vraiment ça aussi qui est fort, c'est de montrer, ben non, on est toujours là, on fait partie du présent. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimais dans son travail, que j'aime dans son travail. Et pour Shana Strauss, c'est aussi le travail sur bois que je trouve particulièrement beau, puis l'idée d'assemblage, parce que vu qu'elle a une identité multiple, ça rejoint aussi une idée que j'ai sur mon expérience aussi personnelle, ayant des origines aussi diverses, donc je parle toujours d'être couche identitaire, et je trouvais que ça se retrouvait beaucoup dans son travail, justement avec l'assemblage qu'elle a avec le bois, le fait qu'elle met du transfert, des transferts de photographies, donc des photos aussi de sa famille, étant américaine, tanzanienne et canadienne. Et du coup, par toutes ces lectures-là, on a des réflexions intéressantes sur ce qu'est l'identité, par exemple l'identité canadienne, tout simplement. Et pour Sharon aussi, vu qu'elle est des Caraïbes et que moi aussi je suis caribéenne, bon, elle est d'origine jamaïcaine canadienne, moi j'ai les origines justement martiniquaises et guadeloupéennes, moi j'étais intéressée par ça, et son travail sur les cheveux m'a beaucoup marquée, parce que ça marque aussi des réflexions que j'ai sur la place que les femmes noires on a dans la société, on va dire dans la représentation de la beauté. On ne représente pas trop la beauté dans les journaux. C'est très rare qu'on voit des gens avec un type de cheveux crépus, type 4, donc les cheveux les plus crépus. Donc, c'est vraiment ce genre d'interrogation qu'elle donne, justement, Sharon. Et c'est comme ça qu'au début, j'avais ces trois artistes où je disais « Ah, j'aimerais tellement travailler avec elle. » Et au fur et à mesure, cette idée s'est formée sur voilà, comment on fait pour mettre en lumière d'autres narrations, en fait. Donc, c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, ça s'est fait. Donc, j'ai commencé, en fait, plus par les artistes. Et après, je me suis dit, ah, j'ai une idée. Ah, ben, pourquoi pas avec ces trois-là? Si ça répond à ta question.
Oui, tout à fait. Et nous pouvons voir également de la céramique de Sharon Norwood. Et c'est une belle céramique, très, très fine, très... Et à la fois, oui... contemporaine et à la fois un regard du passé et réactualiser la céramique et qui fait face à des petites sculptures donc de la peau de surf avec de la broderie, du rembourrage de cedar Yves. Donc il y a un très bon dialogue entre toutes ces traditions et ces réactualisations contemporaines.
Et exactement.
Il y a un savoir-faire incroyable et je pense que au Québec, c'est un peu méconnu. Il faut décloisonner nos pensées que ça a une place dans notre art contemporain, toutes ces techniques-là, puisqu'on a toujours le cliché de penser « ouais, ça appartient à des musées d'ethnologie, d'anthropologie », mais ces trois artistes-là, elles ont une pensée qu'elles veulent garder le feu sacré de la tradition. Et c'est très touchant. Et évidemment, les cheveux, c'est des choses un peu méconnues pour plein de gens.
Oui, c'est marrant que tu parles du cheveu parce que finalement, avec Sharon, il y a cette notion de la présence du cheveu. Mais aussi, comme tu disais, avec les sculptures de Cedar Eve, les sculptures des Spirit Stitch, C'est donc des, comme des petits coussins en fait de peau où dans certains aspects tu vois, on peut voir en fait des petits trous où il y a des cheveux en fait de l'artiste, les cheveux de Cédaric qui s'y retrouvent. Donc il y a vraiment l'idée identitaire et que je trouve très intéressant et très fort, parce que dans nos deux communautés, que ce soit la communauté autochtone et la communauté noire, la notion du cheveu est très importante parce que c'est vraiment le lien, on va dire, identitaire. Et malheureusement dans les histoires de chaque côté, il y a eu un rapport aux cheveux assez traumatisant. Où, par exemple, dans les écoles résidentielles au Canada, quand on prenait les enfants, on coupait les cheveux pour vraiment couper le lien justement avec la culture. Et pour les communautés afro-descendantes, quand on prenait certaines personnes pour les mettre en situation d'esclavage, on leur souvent les cheveux sur la tête. Et pour justement couper aussi ce lien et éviter aussi certains problèmes, on va dire, d'ordre plus hygiénique et tout. Et malheureusement, c'est en lien avec ces traumatismes aussi. Je trouve, quand j'ai vu ces deux aspects-là mis ensemble, je trouvais que c'était vraiment très intéressant.
Et en parallèle à l'exposition, bien, il y a des compléments. Donc, tu as fait une visite guidée, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a, d'ici la fin de l'expo, est-ce qu'il y a d'autres compléments qui sont sur le site Internet ou...
Alors oui, c'est ça. C'est parce que cette année, vu que nous sommes en période de pandémie, l'exposition prend une forme hybride. Donc, on a l'espace d'exposition en tant que tel, classique, mais il y a aussi, on va dire, une version... plus en ligne sur le site du centre d'exposition Netbridge, où on peut voir l'exposition, vous pouvez voir aussi lire le texte que j'ai pu écrire, avoir aussi quelques vidéos, par exemple la visite. Il y aura aussi une interview que j'ai faite un petit peu avant la visite guidée qui est en train de se faire actuellement. Comme ça, on peut voir un peu ma réflexion sur l'exposition aussi sur place. Donc c'est à peu près ça. Donc là, normalement, il y a pas d'autre chose de prévu, mais c'est vraiment, on peut voir toutes les capsules qui peuvent donner d'autres aspects. Puis il y a aussi un travail de médiation par l'équipe du centre d'exposition qui a bien travaillé là-dessus pour donner des informations sur les messages un peu sous-jacents des artistes. C'est à peu près ça.
Merci beaucoup, Cécilia Brackmore, pour l'interview. Et puis, les auditeurs ont jusqu'au 30 mai pour aller.
Très vite!
Ouais, le temps passe très vite. À partir du métro Côte-Vertu, bien, il y a des bus qui seront à Ville-Saint-Laurent. C'est une petite balade.
Venez nombreux et nombreuses!
Et c'est des artistes qui sont vraiment formidables et j'espère qu'on va pouvoir les revoir à Montréal ou dans d'autres villes de la province, puisque ça gagne vraiment à fouiller quoi toutes ces questions. Et je trouve ça assez formidable de ne pas avoir de tabou.
Il faut, parce que reprendre la notion d'histoire et de voir d'autres éclairages. Se dire que il y a plusieurs éclairages à voir dans ce qu'il y a autour de soi, tout simplement.
Ouais, ça c'est un moment fort, les cheveux. Il y a d'autres moments forts dans l'exposition, mais c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, je trouve. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment le grand détour. Merci beaucoup, Cécilia.
Merci pour l'invitation, Esther.
Omo lo de omo di di o. Oh.
On écoute présentement une pièce du plus récent album de Johnny Void et N.A.O. intitulée « L'oiseau chante avec ses doigts ». C'est sorti en février 2021 sur le label Microclimat. La chanson s'appelle « Insomnie, voyage dans la nuit ». Vous allez voir, elle nous transporte dans l'espace-temps à travers un montage sonore de ce qui semble être une vieille bande magnétique poussiéreuse altérée par les deux artistes, suivie ensuite par un segment ambiant expérimental enveloppant et superposé de collages d'échantillons sonores. Donc, je vous laisse écouter ça. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission.
C'est plus facile de toucher.
Je dois vous avouer que l'équipe de café a vécu toutes sortes d'émotions la semaine dernière en prenant connaissance d'une initiative en ligne qu'on peut accéder sur le site web airouverte.québec. L'équipe d'Air Ouverte a comme recréé virtuellement sur la plateforme Gather des salles de spectacle et des bars comme le Quai des Brumes, le Club Soda à Montréal, le Zarico à Saint-Hyacinthe, le Vox Populi à Dolbeau-Mistassini, le Café du Clocher à Alma, le Sea Shack en Gaspésie, le Minotaur à Gatineau, le Pantoum à Québec. Et puis on peut se rendre dans ces endroits-là virtuellement avec notre petit avatar 2D qu'on dirige avec les flèches de notre clavier. Et puis notre avatar est connecté avec notre caméra et notre micro d'ordinateur pour échanger avec les autres personnes qui sont virtuellement présentes. C'est comme un amalgame entre Zoom et les concerts virtuels qu'on a pu voir dans la dernière année, mais dans un univers de Pokémon sur Game Boy. Sérieusement, j'ai de la misère à croire qu'on est rendu là dans la pandémie. Mais heureusement, notre malaise général envers cette chose s'est estompé à la vue de quelques programmations de festivals en présentiel, pour utiliser le nouveau vocabulaire covidien, qui sont parus dans les dernières semaines. Vous avez probablement vu passer la programmation de la 37e édition du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, aussi appelé le FIMAV. Donc c'est fou, hein, quand même 37 années de musique expérimentale à Victoriaville, c'est assez impressionnant. Le festival propose une programmation de 12 concerts, assez variés et toujours très expérimentaux, avec plusieurs projets de jazz et d'improvisation. Il y a le projet de drone métal futuriste d'Éric Quash, qu'on connaît aussi sous le nom de Disquiet Army, et Michel Langevin du groupe Voivode, donc ils se sont associés pour créer un nouveau projet super intéressant. Il y a aussi le projet de musique électronique expérimentale Tamayuge, formé de Maya Kuroki, qu'on connaît comme la vocaliste de Teke Teke, et Tamara, qui était jusqu'à tout récemment notre programmatrice de la section art et culture de CKUT. Donc un très bon duo à découvrir. Il y a également au programme le Chœur de Growlers. C'est une chorale de chanteurs métal qui vont faire vibrer les festivaliers et les festivalières du FIMAV avec différents types de chants, de hurlements, gutturaux, criés, caverneux. Allez voir sur YouTube une de leurs performances, c'est vraiment intense, vraiment impressionnant. Vous allez voir, il y a aussi une programmation de courts-métrages expérimentaux, une exposition d'art visuel et des installations sonores qu'on peut visiter dès le 17 mai. Et puis, les spectacles vont avoir lieu les 21, 22 et 23 mai. Donc, allez voir sur fimav.qc.ca pour plus d'informations. Et puis, moi, je vais vous donner un petit aperçu musical avec Disquiet Army et Away, donc le projet d'Éric Quash et Michel Langevin, avec un teaser de leur album The Singularity Phase 1, paru en décembre 2020. Bonne écoute! Ça fait très longtemps à Café qu'on n'a pas été confronté à présenter deux spectacles qui auront lieu la même soirée. Avant la pandémie, on appelait ça le combat des shows. Parce que à chaque vendredi, on vous proposait deux, voire même trois événements aussi cool les uns que les autres qui avaient lieu en même temps. Depuis plus d'un an, je dois l'avouer, c'est parfois assez difficile de vous proposer des événements intéressants. Vous devez bien l'imaginer. Mais là, il y a deux festivals qui vont avoir lieu en même temps, en présentiel. En même temps que le FIMAV, ben, il va y avoir le festival Santa Teresa à Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, donc du 19 au 23 mai, avec un concert par soir à l'église Sainte-Thérèse d'Avila. La programmation présente Dylan Phillips, qui est membre de Half Moon Run et de Franklin Electric. Le lendemain, il va y avoir l'excellent Jérusalem in My Heart avec Flore Laurentienne. Une belle programmation, une soirée électronique expérimentale qui promet. Le vendredi 21 mai, un programme R&B et Neo Soul avec Maggie Merlin et Cali Technis. Et puis samedi, le 22 mai, Ariane Roy, Laurent San. Et puis le festival va se terminer le dimanche 23 mai avec Ouri, une artiste que j'aime beaucoup trop et que je parle beaucoup trop souvent à l'émission, qui s'est associée avec Elena Dolan pour un nouveau projet de pop électro-expérimental qui s'appelle Hildegarde. Leur album est à paraître le 4 juin. Et puis pour l'instant, on peut écouter deux chansons qu'elles ont sorties sur YouTube, d'ailleurs avec des clips. Je vais vous en faire écouter une. Elle s'appelle Jour 1. Je vous suggère aussi d'aller écouter le clip. Ça donne pas mal envie d'aller danser. Alors, on écoute ça maintenant et on se retrouve après la pause publicitaire.
Bathroom door. There are two locks, one at use. The global outbreak of COVID-19 has affected all our lives in various ways. And it has notably drawn our attention to the intensified systemic racism and selective xenophobia towards our racialized friends in our Canadian society. It is understandable for each of us to feel anxious about this fatal disease. However, the sentiment of fear does not give us the right or the opportunity to conduct hate crime and to discriminate against our Asians, Blacks, Indigenous, and other racialized friends. It is not okay to associate the COVID-19 disease with Asians, particularly those of Chinese descent. It is not okay to conduct physical and psychological abuses towards racialized individuals. It is not okay to vandalize Asians and other marginalized owned businesses. We must stop normalizing and stop accepting racist conducts and hate speeches towards all racialized communities. Rather, in these unprecedented times of global pandemic, together, we must educate ourselves and others and be eager to understand race, systemic racism, and racial justice in Canada and elsewhere. Remember, whoever, wherever, and whenever we are humankind. We must learn to stand together as citizens of the world for a healthier, safer, and happier community.
In solidarity with the Wet'suwet'en, a community event taking place on Wednesday, May 12th from 6:30 till 8 p.m. This event will be focused on the call from many Indigenous, climate justice, and student activist groups calling on McGill University to divest from TC Energy, the company that is constructing the Coastal GasLink pipeline on Wet'suwet'en lands without the collective support of the Indigenous nation. This event is supported by Divest McGill, McGill Nurses for Planetary Health, the Canadian Association of Physicians for the Environment, the Indigenous Student Alliance, and is co-organized with Wet'suwet'en climate justice activist Marlene Hale. Join us on Wednesday, May 12th from 6:30 till 8 p.m. Visit divestmcgill.com. This event is a CKUT Radio co-presentation.
On écoutait Hildegarde avec la chanson Jour 1 qui vont se produire au Festival Santa Teresa le 23 mai. Et puis, on peut dire que ça fait vraiment du bien de vous parler de nouveaux projets musicaux qu'on va réellement pouvoir voir sur scène, espérons-le. Il y a d'autres festivals à surveiller au courant de l'été qui vont offrir une programmation non virtuelle. Il y a le festival Bleu Bleu à Carleton-sur-Mer qui va avoir lieu du 24 au 27 juin, le festival Lanos à Chicoutimi du 7 au 10 juillet, le festival de la musique du bout du monde de Gaspé du 5 au 8 août. On vous revient avec plus de détails au courant de l'été sur ces festivals-là. Et puis moi, je vous laisse en musique avec un groupe que j'aimerais beaucoup revoir en spectacle. Cet été, il s'appelle Corridor. On va écouter la chanson Topographe du dernier album Junior, qui est sorti en 2019 sur l'excellent label Sub Pop. Et puis, sur ce, toute l'équipe de Café vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain sur les ondes de CKUT à 18h comme d'habitude. Et puis, un petit mot pour vous dire aussi d'aller visiter notre page Facebook Café-CKUT93FM pour retrouver les informations que nous avons discutées à l'émission. On publie les liens vers les artistes, les expositions, les événements et plus encore. Bonne semaine!
So, other than that, I mean, you know, what's going on? What do you say?
Buenas tardes.
And we'll be back.
Missed your favorite show? Not a problem. Go to www.ckut.ca and follow the link to CKUT's easy-to-use archives. Instructions are on the page. 2 months' worth of archives are stored in mono and half a month's worth in stereo.
Pleasant good afternoon to you, Montreal.
If you're having trouble, please email sys@ckut.ca.
Hey, Uchanasa. Bonjour tout le monde. Hola, gente. Escucha mi canto. Listen to my singing. Écoute mon chant. Euchanasa. Escucha mi canto. Listen to my singing. Avec ces paroles en langue Nasayuwe du peuple Nasa, nation autochtone de la Colombie, je me présente Dani Rodriguez. Aka DJ Guasa, merci à Luis, à Latin Music Mondays et CKUT pour l'invitation. Nous allons passer un bon moment à découvrir des tunes liées à la résistance colombienne, de laquelle nous entendons parler beaucoup récemment, mais qui datent de décennies, voire de centenaires. Alors commençons par ce morceau produit par Puerto Candelaria pour la Commission de la Verdad, création collective avec les peuples autochtones et afrodescendants.
Soy colombiano, me gusta el folclore. Yo traigo cultura, sazón y sabor. Pero escucha un momento y te cuento la verdad. Con esta situación el país se acabará. Yo soy el aire, montañas y mares. Yo soy el páramo y todos mis pesares.
Yo soy Colombia, un país de amor, donde encontramos libertad de expresión. Sin importar tu raza ni color, vivamos felices, llenémonos de amor.
Yo soy el aire, montañas y mares.